Je voulais parler d'autre chose, mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à quitter des yeux cette petite bouteille en plastique devant moi. Sans doute parce que mon invité d'aujourd'hui n'en a pas, il a une gourde. Elle est à moitié remplie, ma petite bouteille d'eau minérale. Enfin, ceci est écrit dessus, minérale, du moins. Elle peut se permettre d'ailleurs deux ou trois coquetteries, puisqu'elle est 300 fois plus chère que l'eau du robinet. 300 fois. On dirait qu'elle est peut-être meilleure. En tout cas, c'est ce qu'elle essaie de me faire croire en toute transparence. Vous la connaissez, je peux plus me la voir. Parce que sous ces airs de Sainte-Nitouche, bleu clair et rose pâle, elle contient quand même du charbon, du gaz et du pétrole. Elle me dit toute l'énergie qu'elle a consommée pour en arriver là, en transport, fabrication de résine plastique, moulage, nettoyage, remplissage, entreposage, empaquetage et je ne sais quel autre âge. Elle respire l'empreinte carbone, me promet des fumées toxiques quand on l'aura incinérée. Si on la retrouve pas enfouie dans le sol, au fin fond de l'océan, dans plusieurs centaines d'années, ou dans le corps inerte d'un oiseau ou d'un mammifère marin qui l'aura ingurgité. Alors je me penche un peu plus près pour la regarder, à côté de mon micro dans le studio, et je me vois dans le reflet, c'est très désagréable. Vous connaissez l'expression que je fais mienne ce matin? Comment peut-on se regarder dans une bouteille en plastique?
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, vous l'avez sans doute compris, mon invité d'aujourd'hui n'est pas vraiment bouteille en plastique, il est rappeur, il est belge, il a 26 ans. Le mois dernier, il était à l'initiative d'une pétition citoyenne pour lutter contre la consommation de plastique en milieu scolaire. Dans la foulée du succès de son premier album Morale 2, et après une victoire de la musique partagée avec sa sœur Angèle, il sort aujourd'hui un morceau inédit de l'album Chocolat, qui sortira bientôt, ça s'appelle Malade, et on en est malade. Bonjour Roméo Elvis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
Merci
là.
Merci à vous.
Ce matin, alors avant toute chose, on en fait quoi cette bouteille en plastique qui est devant moi que je viens de décrire?
On l'a fini parce qu'il y a de l'eau dedans pour pas non plus gaspiller l'eau, et ensuite on la recycle hein, et on essaie de plus utiliser de bouteilles en plastique et de se munir d'une gourde par exemple.
Comme celle qui est devant vous, une gourde noire?
Totalement, une gourde noire, en plus c'est élégant, c'est discret.
Mais moi je vous en fais la promesse, il n'y aura plus de bouteille en plastique devant moi.
C'est
décidé parce que vous êtes là. Cette initiative militante, Roméo Elvis, elle est née de quoi?
Elle est née d'une idée de mon père, tout simplement, qui, je pense, est très impressionné par le nombre de followers que ma sœur et moi, on peut amasser autour des réseaux sociaux. Et à Noël, il nous a offert une gourde à chacun. Il nous a dit, ce serait bien que vous utilisiez votre influence pour des bonnes causes.
Alors, sous forme de pétition, on en est où de cette pétition?
La pétition, elle se porte assez bien. Et là, on est en train de rassembler des acteurs, des activistes en Belgique pour pouvoir présenter un projet concret, parce que je vais avoir du mal à présenter ça tout seul, mais la pétition, elle a déjà rassemblé beaucoup, beaucoup de signataires. Je crois qu'on est on est 20 000, je crois, un truc comme ça.
Et l'environnement, vous y avez toujours été sensible, je crois. Est-ce que le milieu de la musique, celui du rap particulièrement, est réceptif à ce type de problématique, Roméo Elvis?
Franchement, pour être honnête, pas encore spécialement.
Après, pas vraiment hein.
Pas vraiment, non. Après, il y a beaucoup de choses... Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit avancer dans la musique contemporaine. Surtout en termes d'actualité, c'est quelque chose dont on se détache de plus en plus, dont les rappeurs se détachent de plus en plus. Et l'actualité la plus criante, le truc le plus urgent, je pense, c'est l'écologie, quoi.
C'est vrai que cet engagement, je l'ai trouvé singulier pour un rappeur. En tout cas, on le voyait le mois dernier, la jeunesse belge semble très impliquée dans la lutte pour la défense du climat et n'hésite pas à s'adresser directement à son gouvernement pour demander plus d'ambition, plus de budget, plus de réponses. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute?
Visiblement, ouais, c'est ça qui est cool. Enfin, disons qu'on nous écoute, nous, les influenceurs, ouais, parce que ça fait des articles.
Mais les jeunes?
Et les jeunes, justement, je pense qu'il y a une réaction qui est en train de se mettre en place. Elle est minime par rapport à ce qu'il faut faire comme effort, mais il y a des écoles qui commencent à réagir aux revendications des élèves.
Donc, il va y avoir des élections européennes, surtout bientôt.
Ouais, ça, c'est autre chose, évidemment.
Vous avez voté?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il va falloir utiliser vos réseaux sociaux pour renforcer la mobilisation du vote aussi. Oui,
clairement.
Vous allez le faire.
Clairement.
Quel pouvoir est-ce que ça vous donne, en fait, les réseaux sociaux, en tant qu'artiste?
Le plus beau pouvoir, en tout cas, c'est celui de pouvoir mettre la lumière sur quelque chose qui en a besoin. Donc, et d'avoir ce pouvoir de se dire aujourd'hui, si j'avais envie, je pourrais sensibiliser les gens autour de la cause animale, je pourrais parler des requins, je pourrais parler de plein de choses, et il suffit d'y croire et vraiment de se dire que ça va fonctionner, et les gens sont curieux, ils sont de bonne volonté.
Le pouvoir de donner l'exemple.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Peut-être. Vous vous êtes lancé il y a 6 ans, et le tournant, il s'est produit il y a 2 ans avec un album qui s'appelait Morale 2 et qui a été réédité depuis. On ne compte plus les prix que vous avez reçus en Belgique, en France. Il y a 15 jours, vous remportiez avec Angèle, votre sœur, la victoire de la musique du meilleur clip, pour tout oublier. Roméo Elvis, pour ceux qui ne le situeraient pas encore, vous vous souvenez, c'est ça.
En voilà une drôle de question, je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Ouais. C'est comme
une sorte de dauphin sophistiqué.
Puis c'est ça aussi.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Et puis c'est ça.
Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a lâché l'affaire et qu'on va partir. On a quand même réussi à rassembler tout un troupeau. C'est l'heure de les baiser fort. Ils pensaient qu'on était endormis.
Et puis ça.
Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plates-bandes. Laisse pas le diable danser, boy. Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plates-bandes. Laisse pas.
Romeo Elvis, pourquoi le rap, en fin de compte?
Pour parler, avec de la musique autour.
Parce que c'est le genre musical qui offre le plus de liberté, le plus grand terrain d'expérimentation aussi.
Ouais, plus le terrain d'expérimentation que la liberté, parce qu'au final, je crois que ça, c'est une question personnelle. On peut la mettre en musique dans tous les domaines. Mais le terrain d'exploitation, ouais, c'est clair. Les mots, le champ lexical, et puis aussi la liberté dans les personnages, quoi.
Ça veut dire que votre rap, il n'obéit à aucun code?
Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on obéit toujours à des codes, mais...
Mais c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes.
Ouais, c'est à peu près ça la
c'est
réponse.
C'est important de le dire. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer, ce milieu du rap, vous, d'ailleurs, tant d'un point de vue musical que du point de vue de l'image?
Je l'ai vu évoluer très vite. Je trouve que le mouvement musical, enfin le rap, il évolue très vite. Même depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est fascinant parce que ça montre que c'est un mouvement qui est vraiment dans l'air du temps, entre guillemets, qui réagit vraiment avec ce qui se passe en direct, quoi.
Évoluer en bien, vous trouvez?
Ça dépend pourquoi, ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est moitié-moitié. L'évolution, c'est du bon et du mauvais. Enfin, allez, l'évolution, la suite, c'est du bon et du mauvais, quoi.
Sur les questions de la virilité, par exemple, vous savez que le rap, ouais, a toujours diffusé une vision de la virilité triomphante. Comment, ouais, est-ce que vous avez vu évoluer ça?
Bah, moi, personnellement, ça me complexait avant parce que c'était pas un aspect que je dégageais énormément j'étais très, soulagé de voir que ça s'est un petit peu décomplexé au fil du temps.
On est passé à autre chose?
Non, je dirais pas. Je pense que ça s'est diversifié, mais qu'il y a toujours beaucoup de virilité dans le rap et qu'il y en a même un peu trop, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire être un homme pour vous?
Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas encore dire, parce que je ne sais pas si je suis encore un homme à l'heure qu'il est. Franchement.
Ça s'apprend peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est apprendre. Hein.
Puis on en parlait avec des rappeurs comme L'Homme Pâle, Orelsan ou Nekfeu qui sont passés à ce micro. On est assez loin de l'identité première du rap qui était incarnée par des personnalités davantage issues de l'immigration ou de classes sociales plutôt défavorisées.
Ouais.
L'institutionnalisation du rap, sa gentrification, son embourgeoisement,
ouais,
ça vous inspire quoi, ça, aujourd'hui?
Ça m'inspire ce que le rock a pu devenir à une époque, on va dire dans les années 80, 90, 90. C'est quelque chose de logique, en fait, c'est la suite logique. C'est la musique, elle a été appropriée par tous les styles sociaux, tous les groupes, enfin tous les individus qui a sur Terre, qui représentent la société aujourd'hui. Et du coup, ça l'enrichit encore plus, quoi.
Vous trouvez?
Moi, je trouve, ouais, clairement.
Et en même temps, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que la Belgique est un peu différente. L'image des rappeurs a toujours été sensiblement différente, mm-hmm, de celle qu'on fait en France. C'est un genre moins sulfureux,
ouais,
moins sensationnel. Comment vous l'expliquez, ça?
Bon, c'est dû à la mentalité, en règle générale aussi, en Belgique, qui est différente de la mentalité française. Je pense que la France est plus un pays de revendication, il y a un pays qui descend dans la rue, qui est sensible à la polémique. Et en Belgique, on est peut-être un peu plus mou à ce niveau-là. Ça a du bon comme du mauvais. Et dans la manière dont on s'identifie, on se prend moins au sérieux aussi directement.
L'humour,
quoi.
Le fameux,
ouais,
humour,
ouais, ouais. L'humour, ça c'est sûr. Hein. Et puis le côté, on est des petits Belges, on peut pas trop se prendre au sérieux. Il faut pas non plus qu'on dise des choses trop pompeuses. Et puis au final, t'as des mecs comme Damso qui ont quand même réussi à faire ça de manière super douce, subtile et en se prenant au sérieux, mais avec de la légèreté quand même, quoi.
Vous savez qu'on en a une dans cette émission qui se prend drôlement au sérieux. C'est la culture,
ouais,
mon cher Roméo. Vous la connaissez peut-être. C'est la culture et son actualité. Cucu, concon. Et vraiment, râlez pas crête, que se passe-t-il donc aujourd'hui 22 février?
Être seul devant une page blanche, ça m'affole. Donc je ne suis pas un écrivain. Ma perception du monde passe par les autres. Et j'ai besoin des autres pour finalement rêver à haute voix.
Goretta s'arrête là. Le cinéaste suisse Claude Goretta s'est éteint mardi, mercredi, à Genève. Il avait 89 ans, producteur, scénariste et cofondateur de la maison de production Groupe 5, qui participait à l'essor d'un cinéma suisse engagé. L'homme nous laisse une quarantaine de réalisations, et notamment La Dentelière avec Isabelle Huppert, récompensée en 1977 d'un prix du jury œcuménique à Cannes, ainsi que L'Invitation avec Jean-Luc Bidault, sacré lui aussi d'un prix du jury sur La Croisette en 1973.
C'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sous le disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant on reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche.
Pour la famille et les proches, c'est plus vraiment gravé dans la roche. Sniper, le groupe de rap culte des années 2000, vient d'annoncer une nouvelle séparation et par conséquent l'annulation de la fin de sa tournée française. Déjà séparés entre 2008 et 2016, les trois membres de la formation avaient réussi à se retrouver pour sortir leur cinquième album studio, Personnalité Suspecte, volume 1, en octobre dernier. Le 2 février, ils avaient même enflammé l'Olympia lors d'un concert bouillant. Ben, c'est quand même badant.
Quand on veut observer les étoiles, le transat... Ça, c'est l'outil indispensable pour les astronomes amateurs. Ça évite de finir la nuit avec un torticolis.
Garantie sans torticolis, l'atelier des Lumières à Paris propose dès aujourd'hui Van Gogh, La Nuit étoilée, une nouvelle création immersive et numérique consacrée à l'œuvre du maître néerlandais. Après le succès d'une première expo consacrée à Gustav Klimt, qui avait réuni plus d'un million de spectateurs, l'espace parisien nous invite à découvrir 500 toiles de Van Gogh à travers un parcours sensible et sensoriel tout en démesure, chaud devant. En avant, les musicales, la première édition du Festival des musicales franco-russes s'installe à Toulouse aujourd'hui. Axée aujourd'hui autour du thème « L'âme en partage », la manifestation qui entend créer des passerelles entre les arts russes et français propose jusqu'au 26 mars des concerts, des projections de films et des conférences. À l'honneur, l'immense chef d'orchestre Osset Tougan Sokiev dirigera l'Orchestre National du Capitole de Toulouse pour jouer des chefs-d'œuvre français comme la Damnation de Faust de Berlioz ou Daphnis et Chloé de Ravel, Nastrovia. Le musicien Roméo Elvis, invité de Boomerang ce matin, on a parlé du renouvellement de l'image des rappeurs. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce renouveau d'un point de vue musical. Votre son, vous le définiriez comment?
Comme un son... Un son qui a été, comment dire, comme un bon fromage, qui a bien eu le temps d'être... En tout cas, pour le son d'aujourd'hui, le son actuel, c'est un son, c'est un bon vin ou un bon fromage. Il a pris le temps de se bonifier. Et là, on a le produit le plus pur que j'aurais pu présenter, parce que je me suis fait aider par des grands artisans.
Vous êtes sûr que vous êtes belge ?
Ouais, bien sûr, mais les Belges, on adore tous les produits français.
Comment est-ce que vous le travaillez, ce son ?
Je sais que moi, j'écris la nuit et que je travaille le son en question, je l'enregistre en journée. C'est à peu près le seul truc qui est fidèle depuis le début.
Et à partir de quoi ?
À partir d'un moment où par organisation, en tout cas. C'est pas spontané. Ah, je sors un petit, mon petit carnet, j'écris un truc qui me vient par la tête. En général, je me dis que je vais écrire le soir. J'écris au soir et le lendemain, je vais enregistrer. Tout ça est prévu, quoi.
Et quel type de production est-ce que vous cherchez pour ce nouvel album? Tiens, Chocolat, par exemple, qui paraît bientôt.
On s'était embarqué dans un style musical avec le motel et j'ai surtout essayé de goûter au plus de choses possibles.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que le motel, il a un style très singulier. C'est pour moi le meilleur producteur de Belgique et il a un style tellement fort que la musique qu'on a fait avec Moral 2 et Moral Deluxe, et Moral même, on a régi cette énergie ensemble.
Comment vous la définiriez, cette musique?
Comme le mot nappeux, justement, du titre, c'est la meilleure manière, je pense. C'est une belle nappe musicale. Et du coup, pour Chocolat, j'ai essayé d'expérimenter tout ce que j'avais pas encore fait, quoi.
Bah oui, je vous pose la question parce que, en l'occurrence, vous êtes musicien, Roméo Elvis. Vous faites de la guitare et du piano. Ouais. À quel moment du processus de création ces instruments entrent-ils en jeu? À quoi est-ce qu'ils vous servent, en fait?
Mais vu que je les utilise de manière assez sommaire, et j'ai pas, disons, la virtuosité quand je le peux avoir au piano, que ma sœur peut avoir au piano, bien j'ai pas beaucoup d'expérience en guitare, donc ça me sert à créer des bases d'accords à situer et à pouvoir communiquer avec les instruments, avec les musiciens avec qui je vais travailler.
Ça peut être l'origine d'un morceau?
Drôle de question, c'est moi qui l'ai composé à la guitare par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, y a eu Les Hommes ne pleurent pas aussi, c'était un accord au piano. Ça, c'est souvent à l'origine d'une composition, ouais.
Quand est-ce que vous avez commencé à jouer, en fait ?
J'ai commencé, le premier instrument, c'était le piano. Quand ma sœur a commencé à en faire, ma mère m'a inscrite aussi.
Vous jouiez en famille ?
On a fait un super beau 4 mains avec Angèle, un Tchaïkovski qu'on a réussi uniquement le jour de la représentation. Donc on a fait du piano ensemble. Et puis après, moi, j'étais un peu plus dissipé. J'ai plus vite quitté les cours.
Qu'est-ce qu'on écoutait en famille, chez vous ?
Alors, qu'est-ce qu'on écoutait ? Ma mère, elle nous a vraiment fait écouter de tout. On écoutait beaucoup de musique classique parce qu'Angèle jouait du piano à la maison. Et vraiment, ma mère, c'est facile de dire, elle nous a fait écouter de tout, mais on a vraiment écouté des bandes-annonces de... On a écouté des soundtracks de Bollywood, on a écouté les Knives, on a écouté vraiment tout style, et avec mon père, plus du rock.
Ça fait partie de cet enrichissement pour vous, cette éducation à toutes les musiques, Roméo Elvis ?
Ouais, je pense, hein, clairement. Avec des parents aussi curieux, on était obligés de l'être aussi. Et puis, on passait beaucoup de temps avec eux en voiture. Donc,
et puis, vous écoutiez la musique de votre père aussi, lorsqu'il vous arrivait de l'accompagner à des concerts. Qu'est-ce que vos parents vous ont appris, en fait, de ce que c'est qu'être artiste ?
Mon père, je l'ai suivi beaucoup en concert quand j'étais petit. Je l'ai suivi 2 fois en tournée. Donc, c'était vraiment mon modèle, c'était mon héros. Et je le suivais et j'avais pour but de faire la même chose, secrètement et inconsciemment. Et ce que j'en ai retenu, c'est, ça revient à la gourde, en fait. C'est l'impact positif qu'on peut avoir sur le monde et sur notre entourage. Mon père, c'est quelqu'un de très engagé, qui a beaucoup œuvré pour l'autre, qui a créé une fondation à Cuba pour aider les plus démunis à avoir des instruments de musique et des choses comme ça, qui est, comment dire, qui a une pensée très humaniste. Et du coup, il nous a beaucoup enseigné ça.
C'est aussi une éducation, j'ai l'impression, assez libre, qui cadre pas forcément avec la rigidité du système scolaire notamment. Quel élève est-ce que vous étiez ? Le dissipé, Roméo Elvis.
Moi, j'étais totalement... Pour tout résumer, en gros, dans l'école où j'étais avant, il y avait les bulletins, donc on dit un bulletin en France aussi.
On le dit aussi, hélas.
Les bulletins, ils étaient divisés en 2 colonnes. Il y avait une colonne mise en horizontale et une en verticale, on va dire. Et celle du dessous, donc l'horizontale, c'était les élèves qui avaient raté leur période. Et celle d'au-dessus, c'était ceux qui avaient réussi. On les distinguait comme ça. Et il y avait un bulletin qui séparait les 2 colonnes en diagonale. Et c'était le mien. Et ça, c'était vraiment, ça peut résumer... Très bon et très mauvais en même temps.
Est-ce que tu es un peu révolté ou pas ?
Non, j'étais un peu... J'étais distrait et en même temps, je pouvais être très attentif, en fait. C'était vraiment... toujours entre les deux.
Et parce que vous avez l'air très posé, comme ça, quand on discute.
Ouais.
Tous les deux. Quand est-ce que vous avez décidé que vous feriez de la musique, en fin de compte ? Parce qu'au départ, je crois que vous vous êtes tourné vers une école d'art, vous faisiez de l'illustration et de la photo.
Tout à fait. En quittant, en continuant en revenant à Bruxelles, après avoir fait cette école d'art, j'ai continué dans la photo, en école supérieure. Et c'est à cette période-là, donc quand j'avais 18 ans, que je me rappelle que j'ai en tout cas dit à ma mère « Ah tiens, je fais du rap ». Et que je n'osais pas trop lui dire parce que je me prenais pas trop au sérieux en le disant et tout ça.
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Eh ben, elle était assez curieuse, elle m'a dit « Ah ouais, c'est vrai, cool, fais-moi écouter, tout ça ».
Sa tête, quand elle a écouté ?
Franchement, franchement, j'ai pris encore 1 an ou 2 avant de lui faire écouter quelque chose. Et j'avais l'impression qu'ils allaient me dire « Ah mais c'est bien, comme n'importe quel parent ». Mais vu qu'ils étaient déjà un petit peu, ma mère elle écrit et mon père il fait de la musique, ils m'ont tout de suite donné des trucs, ils ont tout de suite donné un aspect critique et du coup j'ai plus montré avant un petit moment.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que vous avez attendu aussi avant de leur montrer. Qu'est-ce que vous preniez en photo, Roméo Elvis, à l'époque? C'était quoi vos sujets de prédilection?
La nuit, uniquement la nuit. La nuit toujours. Les perceptions qu'on peut avoir dans l'obscurité, le fait que la lumière définisse les espaces et que l'obscurité les enlève complètement. Donc c'était uniquement de la photo de nuit, enfin quasiment uniquement. Beaucoup en argentique, en 300 ISO, des trucs super, super granuleux. Et ça a été ça jusque mes 23 ans.
Et puis la nuit marginale aussi, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Et la nuit, et puis j'ai fait beaucoup de graffiti, donc ça j'œuvrais beaucoup la nuit. Et puis avec la musique, ça a continué.
Faire de la musique, ça a commencé comment? Alors concrètement, quand est-ce que vous vous êtes lancé? En vrai?
J'ai commencé à apprendre la guitare quand j'étais à l'internat, quand j'avais 15 ans. Mais c'était, il n'y avait pas de composition, il n'y avait rien. La première fois vraiment concrètement, c'est à 18 ans, à l'école, en classe, quand j'ai commencé à écrire des textes. En cours, je me souviens que j'écrivais des textes.
Et vous saviez que ce serait de la musique ?
Je savais, je sentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais en tirer quelque chose. Je sentais qu'il y avait un truc, il y avait un potentiel là-dedans.
Vous aviez peur ou pas ?
Oui, j'avais constamment de l'image qu'on pouvait avoir, du sérieux, enfin à quel point est-ce qu'on allait me prendre au sérieux ? Qu'est-ce qu'on allait dire si on savait que mes parents faisaient de la musique ?
Pas au point de tomber malade ?
Non, pas encore, ça c'est plus tard.
Vous me voyez venir, Malade, c'est le titre de cette chanson donc que vous dévoilez ce matin sur l'antenne de France Inter. Une chanson qui n'a rien à voir avec l'épidémie de grippe, je vous rassure, c'est une chanson d'amour, d'un amour déçu. On l'écoute ?
On l'écoute.
Vous êtes sur France Inter avec Roméo Elvis, vous écoutez Boomerang, on est vendredi.
une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Qu'il y aura quand même de la peine tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours pareil pour les excuses. Désolé mais toutes mes excuses. C'est mieux que toi. La tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Et là t'es où? Tu fais quoi? T'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors? Avec qui tu sais? Pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre. Le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête. Ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. De façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclater, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. On veut mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On n'allait pas croire qu'il a l'air malade, au contraire. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu pâlot, hein, qu'on a peine à savoir si ses yeux sont ouverts ou fermés, qu'il semble un brin léthargique comme ça, de prime abord. Mais il suffit d'échanger deux mots avec lui pour que se libère son soleil intérieur et qu'il devienne un anticorps universel à lui tout seul, avec son ample pull blanc avec un crocodile dessus. Le rappeur Romeo Elvis, invité de Boomerang, et on vient d'entendre Malade, son nouveau titre, l'occasion de parler un peu de son, de production. Qu'est-ce qu'on entend dans ce morceau, justement?
Beaucoup de, d'éléments, puis des éléments qui se prêtent pas trop à la production instrumentale rap, on va dire.
Quels sont, par exemple?
Il y a des sons qui me font... J'ai pas un son particulier, en précis, mais y a des, ça me fait penser à Twin Peaks ou des trucs comme ça, des sonorités des années 80.
À David Lynch.
Ouais, exactement, ouais.
Et je vous parle de son parce que je sais que c'est un vrai sujet pour vous. Le son, vous l'aimez, mais il vous rend aussi malade parce que vous souffrez d'acouphènes.
Ouais, exactement.
À quel moment ça s'est déclenché, ça?
Ça a commencé en 2015. À peu près. C'est un problème qui date d'avant parce que j'ai subi une opération quand j'étais jeune et j'ai eu beaucoup de visites chez le médecin. Ça se traduit par un sifflement perpétuel toute la journée.
Et c'est lié à quoi, à votre avis?
C'est des transmissions, c'est des problèmes de. En gros, j'ai usé trop mon oreille avant l'heure.
Dans la nuit?
Ouais, dans la nuit, mais encore je me suis pas trop exposé à de la musique, mais c'est juste le stress, la fatigue et les voyages et tout ça.
L'angoisse aussi peut-être.
Ouais, sûrement tout ça.
Qu'est-ce qui vous angoisse, vous?
Oh, tellement de choses. Les grands classiques, hein. L'angoisse de vieillir. J'ai pas vraiment peur de mourir, mais j'ai peur de vieillir. J'ai peur de pas avoir. Chaque fois, j'angoisse trop, du coup, j'arrive pas à profiter des moments en tant que tel, quoi.
Et comment elle se manifestait, cette angoisse, avant que les acouphènes n'entrent dans votre vie?
Je pense que je communique mon stress à d'autres personnes. J'ai besoin de, heureusement, j'ai des managers qui subissent très bien le stress. Et
donc, des amis?
Des amis aussi, mais je pense vraiment surtout mon équipe. professionnels, quoi. Les gens avec qui je travaille, je sais que je leur transmets beaucoup, beaucoup de stress.
C'est comme ça qu'on conjure l'angoisse en la déversant sur les autres.
Moi, ça m'aide beaucoup, malheureusement.
Et écrire.
Écrire, ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Courir et écrire, ça, c'est deux choses qui défoulent.
Vous avez toujours écrit?
J'ai toujours écrit. Ouais. C'est ça qui m'a poussé vers le rap, je pense, justement. À l'école, les dissertations et les trucs comme ça, ça a toujours été un grand plaisir. J'adorais ça.
Mais c'est une grande discipline, ça, d'écrire.
À fond, ouais, à fond. Ouais, clairement. Mais je dois reconnaître que c'est plus vu comme un petit exercice journalier que comme une épreuve.
Et c'est au hasard de ces textes, justement, que naissent vos morceaux?
Exactement.
Toujours.
C'est ça. C'est jamais un texte écrit de A à Z dans une idée, dans une structure. C'est plus le fait d'écrire tous les jours qui va m'amener à trouver, à finir là et à commencer là. Ok, là, il y a quelque chose à tirer. On le prend, on le retape et tout.
Ah oui, alors comment vous savez qu'il y a quelque chose à tirer, qu'il y a matière à chanson?
Quand ça rentre en tête. Alors que c'est pas encore enregistré, que c'est pas encore mis en place, mais ça va me revenir, ça va me traîner en tête et je vais me dire, tiens, celui-là, il me plaît, il faut que je retravaille dessus et je sens qu'il y a quelque chose. Et puis il y en a d'autres, je les ai plus jamais rechantés, je les ai écrits en entier, je les ai plus rechantés, donc ils ont disparu, quoi.
Par exemple, pour Malade qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui a surgi et qui vous a fait comprendre que la chanson était là?
C'est la ligne de basse au début, hein. Tout de suite, ça a rien à voir avec ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et c'était déjà il y a un an, on était à Los Angeles pendant les vacances. Et quand j'ai reçu l'instrumental, j'ai vraiment tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de très fort avec ce morceau-là.
Et là, les mots sont venus tout de suite.
Ouais, franchement, tout de suite.
J'ai dit chanson parce que je sais que vous chantez, Roméo Elvis. Vous ne faites pas que rapper. Chanter, c'était une évidence pour vous?
Ouais, hein, clairement. C'était plus le rap qui en était moins une. Le chant, ça, c'était déjà là de base, quoi. Après, je savais pas chanter pour autant, mais ça allait venir, quoi.
Mais quand vous étiez petit, vous rappiez ou vous chantiez?
Quand j'étais petit, je rappais des textes de Eminem que mon père me faisait connaître par cœur.
Ah, quand même.
Parce qu'il me disait, si tu veux écouter lui, tu dois savoir ce qu'il raconte parce que il dit beaucoup de bêtises, enfin, il dit beaucoup de gros mots, mais il dit aussi des trucs super drôles.
Et vous les connaissez encore ou pas?
Je me rappelle. Pas vraiment je préfère pas me prendre ce risque en radio et tout, foirer mon accent. Mais quand j'étais petit, je connaissais très bien un refrain. Ouais.
Moi, je pensais assez naïvement que vous me parleriez d'Hélène Ségara, que c'était une passion familiale.
Bah ça, c'est une passion, j'ai subi Hélène Ségara à la maison.
Par Angèle, elle nous l'a dit. Ouais, ouais. Elle nous l'a dit à ce micro. Ouais.
J'ai beaucoup de respect pour Hélène Ségara, hein, mais moi, je l'ai subi énormément parce qu'Angèle, elle avait une chambre à côté de la mienne. Vraiment, on était l'un à côté de l'autre. Et là où moi, j'étais plus à dessiner, Angèle, elle écoutait beaucoup de musique quand elle était plus jeune. Elle faisait que ça, en fait. Elle écoutait de la musique toute la journée. Et elle écoutait tout le temps Hélène Ségara.
Bah, elle écoutait, il y a trop de gens qui t'aiment.
Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas.
Comment vous le vivez, ce succès fulgurant de votre sœur Angèle, qui en l'espace de même pas un an fait l'unanimité absolument partout?
Ouais. Bah, je le vis. Déjà, je suis satisfait parce que je l'ai toujours dit. Depuis plusieurs années, j'ai dit, Angèle, elle va arriver, elle va tout casser vraiment. Et les gens me disaient, ouais.
Ah bah là, c'est
ta petite sœur, ouais. Tu verras. On verra, mais je pense que t'exagères. Et elle exagère encore ce que je prévoyais, quoi.
Puis c'est le pouvoir rebelle, vous citiez Damso tout à l'heure.
Clairement, Damso, Stromae qui a ouvert les portes il y a quelques années. Moi, mes confrères Caballero et Jean Jass, qui commencent aussi à se faire un nom en France. Et puis le sport, on fait partie du fleuron belge, quoi. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir.
Ouais, vous laissez le pouvoir, là, maintenant. Alors, Roméo Elvis, vous nous avez préparé un titre inédit, ouais. Rien que pour nous. Vous nous parlez de souvenirs, je crois.
Ouais, c'est ça, ça ressasse des souvenirs, ouais.
C'est un cadeau, hein, pour Boomerang exclusivement, et c'est à vous.
Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable, et... Hey, combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Hey. Le chiffre ramène trop de faux, le shit amène autre chose qu'une cigarette. Tu cherches tes amis dans la foule et si t'es tout seul, tu disparais. Le diable se déguise, il est beau dans la forme, dans les faits. Mais dans le fond, il te nique ta mère. Il te nique ta mère. Yeah. Combien ça coûte si je veux revivre 10 piges en arrière pendant une semaine sans m'arrêter? Les souvenirs dans ma tête brûlent comme un petit bout de teute. Y'a des choses qui reviennent. Si je fais un petit effort, je peux me rappeler d'une ou deux blagues de Toto. Je me rappelle aussi d'une petite sœur qui bossait comme une zinzin sur son piano, avant d'être encore plus connue que Vianney. Et je me rappelle pas des galères si je fais un effort. Et si je pousse encore un peu, j'oublierai même mes défauts. Eh, combien d'argent ça coûte? Manger la tarte du succès et vomir en crachant ça coûte. Je suis trop queuse, heureusement que j'ai une grosse queue. Ah, pourquoi je dis ça sur France Inter, moi? Jeune puceau provocateur depuis l'époque l'internat. Je me rappelle, j'étais très nul au foot, mais j'adorais ça. Alors j'ai joué sur le côté pour devenir meilleur pendant toute mon adolescence. Aujourd'hui j'ai pas le niveau de Max meilleur, mais je te prends en dribble et tu finis dans la mauvaise salle. Je me souviens aussi d'elle quand j'avais 19 piges. Aucun contact à l'époque, timide et touché par les drogues. C'est devenu la femme de ma vie depuis le jour où elle fut validée par mes potes. Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable. Ah, ah, ah. Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable.
Waouh! Roméo Elvis, ses souvenirs inédits sur une production de Ozora Miyagi, c'est ça?
Exact.
C'est exclusivement sur France Inter. Je rappelle, Roméo, que votre nouveau titre s'appelle Malade, que vous serez en concert notamment au Zénith de Paris le 19 avril prochain, qu'on pourra vous voir un peu partout en France, dans le cadre de festivals comme Garo Rock à Marmande, La Nuit de l'Erdre à Nord-sur-Erdre ou encore Europavox à Clermont-Ferrand. Le nouvel album Chocolat, c'est pour très bientôt, disons avant le 19 avril.
Ouais.
On peut le dire.
Avant le Zénith, ouais, on peut le dire.
Merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Paul Guillot et Jean-Baptiste Audibert, sans qui évidemment on ne serait pas grand-chose.